chef de file des soins infirmiers, assurant la sauvegarde des hautes normes de qualité, cherchant à promouvoir l'enseignement, la recherche, l'encadrement, le soutien et le développement des compétences et de l'excellence clinique. Nous sommes la direction des soins infirmiers du CIUS de l'Est-Richu. Bienvenue à Savoir et Stéthoscope.
Bonjour à tous, bienvenue à ce 8e épisode de ce balado. Je suis Sophie Martin.
Et moi, c'est Julie Blanchette. Nous sommes toutes deux conseillères en soins infirmiers à la direction des soins infirmiers du CIUS de l'Est-Richu.
Aujourd'hui, notre épisode s'intitule « Voyage au cœur de la diversité de la pratique infirmière ». Ça va vraiment être un voyage parce qu'on est allé sur le terrain rencontrer des infirmières pour savoir c'est quoi la réalité de leur milieu, qu'est-ce qu'elles font au quotidien. On est allé en endoscopie, en manométrie, au centre jeunesse, à la clinique des réfugiés. On est allé rencontrer l'infirmière clinicienne en don d'organes. On a vu l'équipe PEP, le CRDE volet dépendance. On est allé à l'équipe d'hébergement en santé mentale et même l'équipe d'itinérance. On va découvrir ce que l'infirmière fait dans son quotidien quand elle travaille dans ces secteurs-là.
Pour nous en parler aujourd'hui, on reçoit aussi Nelly Filion. Bonjour Nelly.
Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Donc, tel que mentionné par Julie, je m'appelle Nelly Filion et je suis conseillère cadre clinicienne à la Direction des soins infirmiers pour la trajectoire santé mentale et dépendance par intérim.
Donc, c'est parti pour un autre épisode du balado Savoir et Stéthoscope.
Nouveauté, développement, accomplissement. Quoi de neuf à la DSI?
L'équipe du Continuum Relève de la DSI, en collaboration avec la dotation, ont mis en place un nouveau fonctionnement pour la postulation de la relève en soins infirmiers. Les externes en soins infirmiers, les candidates à l'exercice de la profession infirmière et infirmière auxiliaire, donc les CPI et les CPIA, peuvent désormais choisir selon leurs intérêts parmi 8 trajectoires clientèles qui regroupent une variété de milieux de soins accessibles avec des clientèles similaires, soit la trajectoire chirurgie, soins palliatifs et de fin de vie, médecine, soins critiques, gériatrie et réadaptation, santé mentale et dépendance, première ligne et jeunesse. Ça offrira l'opportunité à la relève en soins infirmiers d'explorer une variété de milieux et de clientèles tout au long de leur parcours étudiant et de leur cheminement professionnel. La DSI est allée dans les maisons d'enseignement pour rencontrer notre future relève et expliquer le nouveau processus d'embauche et les opportunités de notre offre de trajectoire clientèle. Il y a même une rencontre individualisée avec un membre de l'équipe du Continuum Relève de la DSI qui est offerte aux CPI, CPIA et aux externes pour discuter de leurs intérêts professionnels et de leur plan de carrière pour les guider dans leur choix de trajectoire, même avant leur début d'emploi. Une innovation qui permettra de rehausser l'attractivité et la rétention dans notre organisation en favorisant le développement du plein potentiel de notre élève et la prise en considération de leurs aspirations professionnelles. Une nouvelle page dans Santé Esprit Carrière est maintenant dédiée à la relève en soins infirmiers pour présenter les nouvelles trajectoires clientèles et toutes les informations de la nouveauté disponible pour notre relève en soins infirmiers dès l'embauche. Donc, dans cet épisode, nous avions envie de vous faire connaître l'étendue de la pratique infirmière et ce, dans différents milieux. On sait que les professionnels en soins infirmiers font des stages généraux là, en médecine, en chirurgie, en maternité, en pédiatrie, bon, puis en santé mentale, par exemple.
Mais ça reste que les soins infirmiers, c'est présent dans beaucoup plus de milieux que ça. Là. Il y a des professionnels en soins infirmiers qui vont œuvrer dans une multitude de secteurs. Et c'est de ça qu'on souhaite vous parler aujourd'hui, afin vraiment de vous faire découvrir des milieux qui sont plus méconnus et peut-être même, qui sait, là, vous donner l'envie d'en apprendre davantage sur ces secteurs-là et peut-être même d'aller y faire un petit tour.
Bien, on est d'ailleurs allé faire des visites de 8 professionnels en soins infirmiers qui œuvrent dans différents milieux qui sont plus méconnus ou atypiques. Puis, ils vont nous parler de leur pratique comme professionnels en soins infirmiers là, dans leur secteur.
Puis, avant de commencer, Nelly, je crois que toi, tu as eu la chance de ton côté hein, de travailler vraiment dans plusieurs secteurs.
Donc oui, en effet, Julie, quand j'ai débuté au CIUS de l'Est-Richu comme CPI, à l'époque, les ressources humaines nous demandaient de dresser la liste de trois secteurs où on serait intéressé d'œuvrer comme CPI. Ayant fait mon dernier stage de la technique en soins infirmiers au Pérou, à mon retour, je me suis vu attribuer les milieux de chirurgie et d'endoscopie. C'était vraiment pas la même chose là, que la trajectoire qui est prévue aujourd'hui. Là. Donc, c'était vraiment inattendu pour moi. Je vous mentirais si je vous disais que c'était en lien avec les demandes que j'avais faites initialement, mais à ma grande surprise, ça a vraiment été une vraie révélation.
Puis en parlant d'endoscopie, on est allé rencontrer Josée Filion, qui est infirmière clinicienne en endoscopie, puis a fait plus spécifiquement certains examens comme la manométrie œsophagienne.
En malo-œsophagien, ce qu'on fait, en fait, c'est des patients que les médecins vont nous référer. C'est souvent des troubles de motilité œsophagienne. Fait que c'est chez ces patients-là qu'on va... c'est une sonde, en fait, qui a des capteurs de pression qu'on va installer. Fait que le patient, il arrive à jeun, puis on installe la sonde par le nez, qu'on va descendre jusque dans l'estomac. Et puis, un coup qui est installé, bien là, on lui fait avaler des petites gorgées d'eau. L'examen nous permet de voir, en avalant les petites gorgées, sur le tracé, la motilité. Fait que ça me donne un tracé au niveau du programme. Et puis, c'est analysé après. Là, moi, il faut que j'analyse ce tracé-là après pour voir justement s'il y a des anomalies au niveau digestif. Un deuxième examen qu'on a aussi, c'est la pH-métrie. En fait, c'est pour analyser les reflux gastriques, les gens qui ont des problèmes de reflux. On va installer une petite sonde aussi, c'est au niveau nasal, puis on va descendre, on a des repères aussi là, qu'on calcule, puis on va installer notre sonde pour qu'il soit bien placé là, 5 cm au-dessus du sphincter œsophagien bas. Fait que je mets la sonde, je fais aussi l'analyse de ces études-là, parce que quand on fait la manométrie anorectale, je fais toute l'analyse, en fait, pour savoir, puis aussi, je fais ma note, je fais des notes au dossier pour, je rédige le rapport, en fait, le rapport de l'examen, mais ma note à moi aussi, qu'est-ce que j'ai fait pour intervenir auprès du patient, puis tout ça, puis l'enseignement aussi, puis le suivi.
Bien, merci à José, dans le fond. Toi, Nelly, comment ça s'est passé, ton expérience en endoscopie?
Bien, écoute, comme je le disais un petit peu plus tôt, je me suis promenée entre l'endoscopie et la chirurgie. N'ayant pas passé énormément de temps en endoscopie et n'ayant pas de poste régulier, je n'ai pas eu la chance d'être formée à faire la manométrie. Par contre, dans mon quotidien, j'accompagnais les gastro-entérologues ou encore les chirurgiens afin qu'ils puissent pratiquer les colonoscopies ou les gastroscopies. Dans ce rôle, j'ai appris énormément par rapport au système digestif et l'ensemble des pathologies pouvant s'y retrouver. Bien que ce soit un rôle très technique dans le soutien aux médecins pour l'appareillage, j'ai eu la chance d'être en contact étroit avec les usagers qui venaient passer ces examens et qui étaient souvent très inquiets. Je jouais un rôle clé afin de rassurer ces usagers et soutenir les médecins. Honnêtement, j'ai adoré mon expérience.
Et rassurer les usagers puis établir un lien de confiance, c'est au cœur de la profession infirmière. Mais dans un centre jeunesse, cette qualité infirmière-là, ça doit vraiment prendre tout son sens dans l'accompagnement de l'infirmière avec les jeunes.
Puis je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça faisait exactement une infirmière en centre jeunesse.
Justement, Julie, afin de nous en parler, on est allé rencontrer Ginny Chamberlain, qui est infirmière clinicienne qui travaille au centre jeunesse à Val-du-Lac.
J'ai envie de te dire que c'est un beau mélange entre beaucoup de secteurs ici. On fait des petits stages TSS, on amorce la contraception hormonale, on a tout l'enseignement et la prévention qui vient avec ce sujet-là. On fait aussi beaucoup d'examens physiques pour des besoins ponctuels. Donc, tu sais, on voit des maux de ventre, des mal d'oreille, des infections urinaires. On fait aussi beaucoup de soins de plaies parce qu'on a des jeunes ici qui s'automutilent. Puis des fois, ça va quand même loin où est-ce qu'on doit mettre des pansements, faire des soins de plaies comme ça. On fait aussi toujours un examen physique complet de la tête aux pieds quand un jeune est amené ici au centre jeunesse. Donc, on pratique beaucoup notre examen clinique. On fait de la vaccination. On a des jeunes de 6 à 18 ans. Donc, on essaie de mettre la vaccination à jour selon le calendrier vaccinal. On touche aussi beaucoup la santé mentale parce que, tu sais, si moi, j'ai un jeune qui se présente dans mon bureau puis qui dit que ça va pas super bien aujourd'hui puis qu'il trouve ça tough, ben c'est mon travail d'évaluer son risque suicidaire puis d'aviser l'équipe autour de lui si j'ai des inquiétudes. On joue aussi un rôle d'une infirmière de liaison, si je peux dire, pour mettre en place tous les soins de santé de base pour les jeunes. On a des partenaires ici, que ce soit des médecins, des pédopsychiatres, optométristes, dentistes, physio, tout ça. Donc, on s'assure que quand un jeune est ici, ben il bénéficie de tous les services qu'il a de besoin pour sa santé. On a la chance d'avoir des médecins qui font des cliniques sur place. Donc, on est amené à travailler beaucoup en collaboration avec eux pour faire des suivis de médication, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effets secondaires. On travaille aussi en collaboration avec des pédopsychiatres au CHU. Donc, on est vraiment chanceux. On organise des rencontres qui rassemblent tous les intervenants qui gravitent autour d'un jeune pour avoir des recommandations puis des conseils au niveau de la médication ou au niveau des stratégies à mettre en place avec le jeune. Être infirmière en centre jeunesse, c'est avoir beaucoup de tâches, mais c'est aussi beaucoup de chapeaux à porter. T'sais, oui, on est avant tout un professionnel de la santé qui est dans la prévention puis dans la promotion auprès des jeunes. Mais je pense que quand on travaille en centre jeunesse puis quand on travaille avec des jeunes, on doit s'attendre d'avoir un rôle de personne ressource pour des étapes qui sont si importantes dans la vie d'un ado. Si je parle de puberté, la première relation sexuelle, les premières règles, c'est toutes des étapes qui sont à la base hyper stressantes puis hyper challengeantes pour des ados. Je pense que le fait de les vivre en centre jeunesse, ça les rend encore plus difficiles. Donc, nous, on est là pour les accompagner, les écouter, les éduquer, surtout dans ces moments-là. Puis, pour ma part, je pense que c'est l'aspect que j'aime le plus de mon travail en centre jeunesse, c'est de voir des jeunes qui sortent de mon bureau vraiment plus déposés, alors qu'ils sont entrés dans mon bureau la tête pleine de questionnements. Au final, on joue un rôle essentiel dans un passage obligé pour la plupart de nos jeunes ici, un rôle qui doit se faire dans le respect, le professionnalisme et surtout le non-jugement. Parce que je sais que c'est facile de juger de l'extérieur. Je sais que pour plusieurs, jeunes en centre jeunesse, ça veut dire jeunes à problème. Mais non, c'est juste des jeunes qui ont besoin d'un moment de répit. C'est des jeunes qui parfois vivent des choses que personne ne devrait vivre. C'est des jeunes qui font des gros efforts pour aller mieux. Puis c'est des jeunes qui ont juste besoin d'être entourés par une équipe pour mieux repartir. Puis nous, bien, on fait partie de cette équipe-là pour eux. Puis c'est super gratifiant.
Ah, c'est vraiment touchant de pouvoir faire une différence dans la vie de ces jeunes-là qui vivent des moments difficiles puis qui sont en situation de vulnérabilité.
En fait, ces jeunes-là de Val-du-Lac font vraiment preuve de beaucoup de courage. Puis ça me fait penser aussi aux gens, justement, qui quittent leur pays de façon volontaire ou non. Eux aussi, là, doivent vraiment faire preuve de beaucoup de courage. Puis recommencer sa vie à zéro dans un nouveau pays où on connaît parfois que très peu ou pas du tout la langue, c'est tout un défi.
En effet, ça doit être vraiment tout un défi. Je les admire. À ce sujet, nous avons eu la chance d'aller rencontrer Émilie Pruneau, qui œuvre comme infirmière à la clinique des réfugiés.
En fait, ici à Sherbrooke, on est quand même une ville qui accueille beaucoup de nouveaux arrivants, les réfugiés. Puis, avec le gouvernement, on a un mandat de les voir dans les 30 premiers jours qu'ils arrivent et les 90 jours ensuite. Fait que nous, infirmières, échelonnées sur 3 rendez-vous, on effectue un grand dépistage. Fait que autant sanguin, donc via des prises de sang, on fait aussi un dépistage de tuberculose, puis on fait aussi des dépistages au niveau des selles, donc tout ce qui est parasite intestinal que les gens peuvent avoir. Puis nous, par l'entremise de ces résultats-là, bien, on revoit les patients. Puis en fait, via des ordonnances collectives, bien, on peut initier des traitements, comme la vitamine D, traiter des carences en fer. On peut aussi traiter certains parasites intestinaux, qui est toujours via l'ordonnance collective. Puis on peut aussi réajuster des laboratoires, par exemple refaire des prises de sang, prévoir des contrôles dans 6 mois, ces choses-là. Mmh. Puis à la suite d'avoir vu nos patients, ben on émet une priorité sur le dossier s'il doit voir le médecin ou pas de la clinique. Puis là, suite à ça, bien le rendez-vous s'effectue selon la priorité qu'on a mise. On fait tous les examens physiques, mais on fait aussi l'évaluation de la santé mentale. Puis on travaille vraiment en étroite collaboration avec les travailleurs sociaux dans l'équipe. T'sais, on se complète là, le rôle l'une et l'autre. Là. Fait que si, par exemple, moi, je vois des choses, ben je vais lui en parler. Puis elle, de même, si elle voit des choses, elle vient m'en parler. On a des références aussi que la médecin peut faire vers un psychiatre. Puis on a aussi tout dans la communauté, on peut les référer vers des organismes communautaires, tout aussi, par exemple, le CIP, enfants, jeunesse, famille. Fait qu'on travaille tout en collaboration avec eux.
Vraiment un nouveau secteur, là, tout ce qu'Émilie nous a raconté. Ben dis-moi, Nelly, après l'endoscopie puis la chirurgie, c'est quoi que t'as fait, toi, de ton côté?
Écoute, après avoir complété mon baccalauréat en sciences infirmières, j'ai obtenu un poste à la clinique SAMI, qui est le suivi ambulatoire des maladies infectieuses pour la clientèle infectée par le VIH ou encore co-infectée par le VIH, le VHC ou le VHB, par exemple.
Ah, ça devait être un beau milieu, là. T'es chanceuse quand même d'avoir obtenu un poste là-bas.
Oui, t'as raison. Ça a été vraiment toute une chance parce qu'à l'époque, il y avait juste une infirmière qui occupait ce rôle pour la grandeur de notre CIUS. Puis elle quittait parce qu'elle venait d'obtenir un poste comme infirmière au don d'organes.
Mais je vais vous laisser entendre maintenant, justement, Véronique Savard, qui, elle, va nous parler de la pratique infirmière au don d'organes.
Le poste d'infirmière ressources relève de la coordination des soins intensifs, traumatologie et dons d'organes. Je suis la responsable du volet dons d'organes pour le CIUS depuis 2023. Le travail d'infirmière ressources se fait conjointement avec l'organisme de Transplant Québec. Nous suivons les procédures établies par Transplant Québec, qui sont parfois un petit peu adaptées là, pour notre centre, là, afin que le processus fonctionne bien. Le but du poste d'infirmière ressources, c'est d'offrir un soutien aux familles endeuillées dans les secteurs des soins intensifs. Donc, c'est pour ça qu'on inclut aussi la néonatologie et les soins intensifs pédiatriques. Nous offrons le soutien également aux équipes présentes afin de s'assurer du bon fonctionnement du processus et être présents pour répondre à leurs questions. Mon rôle comme infirmière ressource est assez élaboré. Il est tout d'abord, c'est celui de soutien aux familles. Je vais évaluer leurs besoins, gérer les crises, collaborer avec les professionnels aussi sur les unités. Puis je vais aussi ajouter maintenant les professionnels externes, les travailleurs sociaux. Donc, on travaille vraiment comme une équipe, vraiment multidisciplinaire là, dans des cas de processus de don d'organes. Mon travail auprès des familles, celui-là, c'est, il débute dès que l'équipe médicale va rencontrer une famille. Et quand ils vont rencontrer la famille, c'est vraiment lorsque les options de soins, là, ils commencent à être très limités. Là. On voit que les patients, là, on n'aura plus de possibilités pour eux ou dans les soins intensifs. Là. Il faut consulter les registres afin de voir si le patient aurait eu un désir d'offrir ses organes suivant son décès. Ça, c'est la loi qui nous l'exige. Lorsque l'infirmière ressource obtient cette information-là, elle doit le transmettre à l'équipe traitante. Ainsi, nous pouvons rencontrer la famille et répondre à leurs questions en ayant également l'information des dernières volontés si la famille ne les connaît pas. Lorsque la famille est avisée qu'il est un donneur potentiel, c'est avec elle que je vais discuter pour consentir au processus du don d'organes. Le rôle de l'infirmière ressource se poursuit donc avec la coordination et la collaboration avec les partenaires et l'organisme Transplant Québec. Dans ce temps-là, je communique avec eux pour l'identifier et le référer et par la suite, c'est durant les prochains jours qui viennent. Ça va nécessiter quelques jours, comme je viens de dire, c'est afin d'assurer c'est la meilleure qualité des organes qui pourraient être prélevés et être donnés pour les personnes qui sont en attente d'une greffe. Ce qui est à retenir, c'est qu'il est vraiment primordial de connaître les volontés et afin de respecter le défunt. Les équipes traitantes doivent donc les identifier et nous transmettre les informations pertinentes afin que nous puissions commencer nos recherches. Ce travail est aussi effectué par l'infirmière ressource en poste ainsi qu'une équipe de garde. Moi, j'ai une équipe de garde d'infirmières qui, elles, proviennent des soins intensifs. C'est toutes des infirmières qui ont déjà leur poste, mais en même temps, il m'accorde du temps afin d'être de garde pour être capable de combler les besoins et d'accompagner les familles avec moi. Ils reçoivent une formation de quelques jours avec moi et avec Transplant Québec. Puis par la suite, ils sont capables de faire le même travail que moi au niveau de l'accompagnement. Ça, c'est le côté un petit peu plus clinique. Il y a le côté aussi de l'enseignement. C'est que nous offrons aussi un soutien également aux équipes traitantes pour transmettre l'expertise et les mises à jour au dossier des patients. Il est important aussi d'assurer une bonne formation et sensibilisation des équipes. Ici au CIUS, pour faire les bonnes formations puis la sensibilisation, il y a la tenue d'une simulation d'approche structurée en soins de fin de vie qui est offerte avec la collaboration du laboratoire de simulation ici avec l'Université de Sherbrooke. Mon rôle m'amène aussi également à me déplacer dans les centres d'éducation tels que les écoles secondaires, les collèges, les universités, afin d'informer les futurs professionnels, que ce soit des infirmières, que ce soit des médecins, de leurs tâches lors des décès des patients.
Jusqu'à maintenant, j'espère vraiment que vous appréciez votre voyage parce que moi, je suis comblée de découvrir toute la diversité de la pratique puis comment notre rôle d'infirmière peut être diversifié.
Oui. Tantôt, tu nous disais, Nelly, que tu avais été à la clinique Samy, mais après ça, qu'est-ce que tu as fait?
Ben écoute, j'ai adoré mon passage à la clinique Samy, mais j'avais fait mes stages de fin de bac à l'équipe de suivi intensif et donc j'ai décidé de retourner dans ce milieu-là comme remplaçante.
C'est quoi le suivi intensif?
Le suivi intensif, c'est une équipe interdisciplinaire qui offre des soins et services aux gens qui ont une problématique, un trouble grave de santé mentale. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner les usagers dans le développement de leurs compétences afin de se rétablir et par le fait même de maintenir ces usagers en communauté. Comme je vous l'expliquais, là, j'ai connu l'équipe SI lors de mon stage de fin de baccalauréat, puis ça a vraiment été une vraie découverte, là, même, je dirais, une passion. Puis malgré le fait que j'avais pas de poste au départ, ben j'ai décidé d'y retourner. Puis finalement, ben heureusement, j'ai eu un poste l'année suivante.
J'ai aussi eu la chance de faire un stage au suivi intensif que j'avais tout autant adoré, mais de travailler au quotidien régulièrement avec cette clientèle-là, je connaissais pas ça.
En effet, hein, c'est un superbe travail avec une clientèle vraiment très diversifiée. Comme il s'agit d'une équipe là, qui offre une intensité de service élevée, les usagers qui reçoivent des services de l'équipe SI ont souvent eu recours à une multitude d'autres services avant, comme le PEP, par exemple.
Le PEP? Ben, c'est plein de nouveaux termes là, que je ne connais pas. C'est quoi le PEP?
Oui, le PEP, c'est l'équipe qui offre des soins et services dans la communauté aux usagers qui vivent un premier épisode psychotique. On va donc entendre Véronique Dumas, qui est infirmière clinicienne à la clinique des premiers épisodes psychotiques de Sherbrooke, nous parler du secteur où elle travaille puis de sa pratique infirmière.
Je dirais que le secteur où je travaille, c'est le meilleur des secteurs, mais pour être plus complète dans ma réponse, je vous dirais que c'est un programme d'intervention qui a été créé pour les premiers épisodes psychotiques. C'est destiné à des jeunes qui sont situés entre 12 et 35 ans, qui vivent un premier épisode psychotique ou qui sont à haut risque d'avoir un épisode psychotique. On est composé là, de divers professionnels de la santé qui peuvent aider à apporter un soutien nécessaire pour que le jeune puisse se rétablir. Il va être accompagné. On les accompagne dans la réalisation là, de leur projet de vie. On travaille en étroite collaboration avec les personnes, les proches, puis aussi avec leur environnement. Comme infirmière clinicienne au sein de l'équipe, j'évalue là, les symptômes de la psychose, les troubles de mémoire, les changements d'humeur. Souvent aussi, les gens ils vont avoir des diminutions d'intérêt, de l'isolement, de la diminution aussi d'interaction sociale. Fait que nous, on aide à soulager les symptômes. On est reconnu pour soutenir les personnes qui ont des troubles d'épisodes psychotiques pour reprendre le contrôle de leur vie puis de leur activité quotidienne. C'est des interventions qui sont surtout basées sur des interventions psychosociales telles que l'éducation psychologique, l'apprentissage de stratégies d'adaptation, du maintien ou de la réinsertion scolaire ou socio-professionnelle. On a aussi là, des médicaments qui aident à atteindre un certain équilibre tels que des neuroleptiques ou des antipsychotiques que le médecin prescrit aux clients que nous, on aide à établir le traitement pour voir comment que l'équilibre du cerveau, là, la chimie, ça se rebalance. Avec ça, ben, ça vient gérer plus les émotions, les pensées, les perceptions, la mémoire, les troubles de concentration. Puis en plus de tout ça, ça l'aide à gérer l'anxiété, ce qui aide vraiment là, à la condition de la personne. Puis ça l'aide à reprendre le contrôle puis le cours de leur vie qu'ils souhaitent. Ça l'annule aussi, ça diminue énormément les risques de psychose ou de rechute de psychose. On travaille aussi sur les préjugés, la stigmatisation. C'est quelque chose qu'on entend là, de plus en plus fréquemment. Souvent, les personnes qui ont le plus de préjugés, c'est les personnes elles-mêmes, c'est leur propre jugement qui viennent jouer un rôle négatif. Fait qu'on fait de l'enseignement là-dessus puis du renforcement. Il y a aussi les conséquences sur l'entourage. Nous, on fait de l'aide, des groupes de soutien. On trouve que c'est indispensable durant la durée du rétablissement de faire de l'enseignement pour avoir des techniques efficaces de communication et de stratégies d'adaptation pour participer à des interventions de soutien. Alors, la santé mentale, c'est sûr que c'est une grosse branche de nos jours là, qu'on parle beaucoup, puis c'est important aussi de faire de la prévention avec des saines habitudes de vie, des habiletés sociales, comme je disais tantôt, augmenter l'estime et la confiance de soi, faire de la gestion du stress, prévenir et diminuer les risques de développer une rechute. Là. Si on a la bonne médication et un bon intervenant avec le bon temps, bien, on fait des miracles. Là. C'est ce qui fait que ça me motive réellement dans mon travail et j'aime faire la différence chez les gens. C'est un côté des soins infirmiers qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui est vraiment apprécié de notre clientèle et aussi là, de leurs proches.
Donc, on découvre, Nelly, que ta passion, c'est vraiment la santé mentale. Fait que pour nous faire découvrir là, toute la diversité de la pratique infirmière dans ce secteur-là, je crois que tu es allée rencontrer différentes équipes qui accompagnent là, plusieurs clientèles qui vivent des enjeux qui peuvent affecter la santé mentale.
Tu as bien raison, Julie. La santé mentale, c'est ma passion. Puis, je suis allée rencontrer Juliane Charland, qui est infirmière au Centre de réadaptation en dépendance de l'Estrie et qui nous parle de son quotidien au volet hébergement-dépendance. La clientèle rencontrée est une clientèle présentant soit un trouble d'usage à différentes substances, alcool, drogue ou encore une dépendance au jeu.
Au quotidien, là, comme on fait infirmière, on est directement à l'hébergement à l'interne. On va travailler conjointement avec les éducateurs spécialisés. On va être environ de 1 à 2 infirmières. Premièrement, c'est nous qui fait les accueils des usagers directement là, une fois qu'ils rentrent au centre avec nous. Donc, on va les accueillir dans notre bureau pour faire vraiment une évaluation complète avec eux de l'évaluation de l'état de santé mentale, puis une évaluation aussi de la santé physique, parce qu'on sait que les troubles d'usage de substances là, viennent souvent en comorbidité avec certaines maladies chroniques, d'où l'importance pour nous de faire une évaluation pour accueillir la personne avec une vision de soins holistiques. Après avoir fait notre évaluation, c'est là qu'on a place à notre jugement clinique. Là. Puis ensuite, on effectue un suivi continu là, avec la clientèle directement. C'est un service de 24 heures sur 24. Fait qu'il y a toujours un infirmière qui est sur le plancher pour vraiment s'assurer du bien-être du patient. Puis au besoin, là, on va aussi faire le dépistage des risques. Par exemple, les personnes qui sont en période de sevrage, c'est difficile, ils vivent des moments difficiles. Des fois, ils ont plusieurs... ils ont accumulé plusieurs situations avant de venir cogner à notre porte. Fait que des fois, c'est important de faire des dépistages comme les évaluations du risque suicidaire en période de sevrage d'autant plus. Puis c'est vraiment de venir dépister, de venir intervenir avec eux directement selon les risques, puis au besoin de venir les orienter. Parce que nous, notre spécialité, c'est la dépendance, mais c'est important de dépister tous les risques possibles. Puis ensuite, on est un maillon important pour l'orientation vers les ressources appropriées.
Donc, dans les derniers extraits, on a entendu plusieurs choses sur la pratique infirmière en communauté ou en établissement. Mais je pense qu'il y a aussi des services aux usagers qui sont hébergés là, dans des ressources spécialisées en santé mentale. Est-ce que c'est exact, Nelly?
Tout à fait, Sophie. Il existe, entre autres, une équipe interdisciplinaire qui offre des soins et services aux usagers qui demeurent dans des ressources d'hébergement afin de soutenir ces ressources, mais aussi accompagner les usagers dans leur établissement. Pour ce faire, nous sommes allés rencontrer Elisabeth Saint-Jean, qui est infirmière clinicienne au programme de réadaptation résidentielle en santé mentale adulte. Dans le prochain extrait, Elisabeth nous parle de sa clientèle et de son quotidien comme infirmière.
Je côtoie régulièrement, quotidiennement, là, des usagers qui vivent en ressources d'hébergement, des résidences intermédiaires spécialisées en santé mentale, dispersées sur le territoire de Sherbrooke et à Istengus. Les RI, les résidences intermédiaires, peuvent accueillir entre 9 et 50 usagers. Les usagers ont tous un diagnostic, et ça doit être la majeure, là, un trouble de santé mentale grave et persistant, comme un trouble psychotique, une maladie affective bipolaire ou un trouble de personnalité. On voit aussi beaucoup de concomitances avec le trouble de l'usage de la substance, trouble de comportement qui peut aller de l'opposition à de l'agressivité verbale ou physique et de la déficience intellectuelle. Certains usagers sont là de façon volontaire, donc ils ont choisi de vivre en ressources d'hébergement. D'autres sont contraints là, de vivre en ressources là, par une ordonnance de la Cour. Physiquement, mon bureau est situé au centre Jean-Patrice Chiasson à Sherbrooke, mais je considère ma voiture et mon sac à dos comme mon bureau de travail. Je suis beaucoup sur la route, je suis impliquée dans toutes les ressources d'hébergement. On a 5 ressources d'hébergement dans le programme, donc je me promène d'une ressource à l'autre. Je peux faire 1, 2, 3, ça peut aller de 1 à 3 ressources par jour. Je n'ai pas de journée type. Mes interventions, mes soins vont au gré des demandes des intervenants pivots, des urgences et des bobos. Je suis interpellée à chacune des admissions là, pour faire une évaluation, une collecte de données complète là, sur la santé de l'usager et mettre en place, planifier les soins nécessaires pour une bonne prise en charge de l'usager en collaboration avec les infirmières auxiliaires. Je suis interpellée là, par les intervenants pivots pour l'évaluation de l'état mental et physique d'un usager qui va moins bien. Je fais le suivi nursing des situations plus complexes. Je suis mise à contribution pour créer, mettre en place des protocoles pour des situations particulières, comme exemple un usager qui s'automutile, on a une médication qui nécessite des surveillances, donc on va donner des indications aux employés responsables de la ressource comment agir. Exemple protocole aussi, là, un usager qui revient en consommation de drogue ou d'alcool à la ressource. J'accompagne médecin de famille, psychiatre dans une ressource d'hébergement pour leur visite mensuelle. Puis ensuite, là, je suis dans l'organisation des soins qui suivent après la visite. Je participe aux rencontres interdisciplinaires. Je suis mis à profit dans certains dossiers au niveau des plans d'intervention. Donc, j'ai aucune journée qui se ressemble. J'aime beaucoup mon boulot au sein de l'équipe. Je trouve que j'ai un rôle privilégié. Je vois plein de choses, je vois plein d'usagers. Mon rôle d'infirmière est très vaste. J'interviens auprès d'une clientèle diversifiée. J'ai une belle autonomie professionnelle, j'ai une belle opportunité de gérer mon horaire, puis d'être créative dans mes interventions et dans la façon de prévenir la maladie, de promouvoir la santé là, auprès de cette clientèle.
Dans l'extrait d'Élisabeth, on entend toute l'importance du travail interdisciplinaire aussi, puis de la proximité là, avec les ressources d'hébergement.
T'as raison, Sophie. Le travail en interdisciplinarité est omniprésent et indispensable dans une multitude de secteurs, car il permet de mettre à profit plusieurs intervenants, plusieurs professionnels au travail d'un même objectif avec l'usager. De plus, la proximité avec les usagers est très importante, puis je dirais encore plus en santé mentale, parce que les usagers ne viennent pas toujours à la rencontre des soins et services. Ce sont plutôt les intervenants qui doivent se déplacer, se rendre dans le milieu de vie respectif. Dans le prochain extrait, nous allons entendre Mylène Turcotte, qui est infirmière clinicienne à l'équipe Proximité Accès, pour qui le travail de proximité et d'interdisciplinarité est omniprésent.
Mais c'est quoi l'équipe Proximité Accès?
C'est une équipe interdisciplinaire qui a deux volets, soit le volet itinérance et le volet TAO, qui est le traitement agoniste des opioïdes pour les usagers qui ont une dépendance aux opioïdes.
OK, c'est bon, merci. On va écouter Mylène maintenant.
Donc nous, notre mandat premier à l'équipe itinérance ou à l'équipe de Proximité Accès, c'est d'aller vers ces gens-là, d'aller en mode outreaching, c'est un peu notre philosophie. Fait qu'on va dans les ressources de refuge pour itinérants à Sherbrooke, c'est l'accueil Poirier. On va vraiment dans les centres de jour, donc à Sherbrooke, ça s'appelle Ma Cabane. On va dans les soupes populaires, Sherbrooke, c'est La Chaudronnée. On va dans ces organismes-là comme professionnels, on fait des évaluations de santé. Là, je parle pour l'infirmière. Et moi, mon but, c'est de réaffilier ces gens-là au système de santé. Donc, c'est sûr que ce qu'on va faire, c'est on va renouveler des cartes d'assurance maladie, on va énormément aider les gens à tout développer, à tout répondre aux besoins de base, à tout faire les démarches au niveau là, de l'aide sociale, de la RAMQ, de l'IVAC, la SAC, parce que c'est des formulaires qui sont complexes à remplir. Ces gens-là, souvent, sont en mode survie, sont en précarité. Des fois, il y a une donne de lenteur intellectuelle qui fait que juste répondre à tous ces formulaires-là, c'est vraiment complexe. Fait que souvent, c'est des démarches qui aboutissent jamais. Fait qu'on les aide. On va énormément aider à se trouver de la nourriture, se trouver un logement. On a la chance aussi, à l'équipe de proximité, d'avoir 4 appartements supervisé à Vimont, qui est dans un HLM. Fait qu'on a 4, 1,5. Fait que des fois, on peut envoyer des gens là-bas, les sortir de la rue temporairement pour leur donner une pause, puis vraiment couvrir tous les services au niveau de la santé physique, de la santé mentale, de la santé psychosociale, pour après ça leur trouver un logement. Fait que c'est des appartements où c'est une durée maximale de 1,5 à 2 ans, mais le plus rapidement possible, on peut les sortir, on peut intégrer quelqu'un d'autre. On va faire beaucoup d'accompagnement dans les rendez-vous médicaux, les consultations, quand les gens ont besoin de soins de santé. Si c'est dans le réseau, on va les accompagner. Mais on a la chance aussi à l'équipe, comme on a 2 médecins, une psychiatre et une IPSPL, imaginez comment on peut soigner en première ligne, ce qui évite d'envoyer ces gens-là en deuxième ligne, qui est tout le centre hospitalier. On évite énormément de coûts et d'aggravation de certaines maladies. Comme infirmière aussi, tu sais, on va traiter tout au niveau de la population, tout ce qui est santé sexuelle, dépistage d'ITSS, la contraception pour les femmes, les tests de grossesse, les examens gynéco, les pap tests. On va prendre les gens puis on va essayer de leur donner le plus beau panier de services possible, parce que c'est des gens qui n'iront pas chercher ces tests de dépistage-là. Par exemple, pour le pap test, une femme devrait faire un pap test aux 3 ans, mais des fois, on rencontre des femmes que ça fait 15, 16, 17, 20 ans qu'ils n'en ont pas eu parce que c'est confrontant pour eux, un pap test. Fait que des fois, de créer un lien puis dire, hey, non, on va le faire, il faut te mettre à jour. Fait que des fois, avec le lien de confiance, on peut vraiment soigner puis faire de la prévention du dépistage. Puis comme infirmière, ben c'est sûr qu'on va faire énormément de prises de sang, de CG, de soins de plaie, et on va vraiment maximiser aussi la vaccination des populations. On va mettre tout le monde à jour dans le calendrier de base de vaccination, que les personnes, je les prenne en charge ou pas. C'est comme un de mes mandats pour protéger les populations vulnérables, parce qu'on sait qu'ils n'iront pas se faire vacciner nécessairement pour se mettre à jour. Et ce qu'on fait de très intéressant à l'équipe de proximité d'accès, c'est que durant la grande période d'influenza et de pneumocoque, qui est les pneumonies, fait que je dirais vraiment à cette période-là, qu'au vraiment de novembre à avril, je dirais là, toutes les infections respiratoires, nous, comme c'est trop loin se rendre au centre de foire, en autobus, prendre rendez-vous, cette complexité-là fait que ce qu'on se rend compte, c'est que la majorité des gens vulnérables, ils ne se font pas vacciner contre ces deux maladies évitables par la vaccination. Donc, on organise un gros pot de vaccination dans les organismes communautaires, donc à La Chaudronnée, à Ma Cabane. Et là, on ouvre, on envoie de la publicité dans tous les organismes communautaires de la région pour leur dire que telle journée, trois infirmières vont être présentes pour une vaccination de masse parce que nous, ce qu'on veut, c'est attirer le plus de monde possible parce qu'il y a 200 personnes par jour à la soupe populaire. Si l'influenza rentre là-dedans, ça peut faire des ravages monstres. Donc, et la pneumonie aussi. Donc, ce qu'on veut, c'est essayer de vacciner le plus de monde possible pour que ces gens-là qui vivent en proximité dans les soupes populaires et dans les refuges bien, soient au moins immunisés de ça. Donc, ça, c'est un de nos mandats comme infirmières. On travaille énormément avec une clientèle là, de gens qui ont des troubles de consommation. Donc, on va faire beaucoup d'enseignements sur comment consommer de façon sécuritaire pour éviter des maladies infectieuses telles l'hépatite C, le VIH. On va donner des kits d'injection, des pipacrac. On va distribuer de l'analoxone, des condoms délubrifiants pour les travailleuses du sexe. On va beaucoup faire de l'enseignement sur bien gérer les déchets biomédicaux aussi, parce que c'est un des mandats de la santé publique qu'on prend, parce que comme infirmière communautaire, faut comme avoir aussi l'autonomie et la débrouillardise de savoir quoi offrir aux populations pour couvrir large. Donc, l'immunisation, la santé publique, les soins de base, fait qu'il faut savoir comme le plus offrir. Donc, on prend ce mandat-là de la santé publique pour offrir tous ces...
Ces services-là
de réduction des méfaits.
Mmh.
Fait que, une autre chose, là, je vous disais qu'on avait un traitement TAO au niveau de l'équipe. Fait qu'on fait du traitement agoniste des opioïdes. On va offrir des traitements de substitution méthadone, suboxone, Cadian pour aider les gens qui ont une dépendance aux opioïdes à essayer de s'en sortir. Ça va s'accompagner avec un suivi psychosocial global pour aider ces gens-là. Et on a la chance de aussi tous les gens qu'on dépiste au niveau des ITSS qu'on découvre malheureusement une hépatite C, bien, on peut ici tout faire les tests préalables et soigner. Fait que c'est mettre un traitement de 8 semaines avec un ou trois comprimés par jour selon le traitement. Peu d'effets secondaires, fait qu'on soigne énormément de gens pour éradiquer l'hépatite C. Et je terminerai en disant que notre travail est aussi riche parce qu'on a une collaboration extraordinaire avec les organismes communautaires et sans eux, notre travail de première ligne ne pourrait pas être aussi brillant et aussi efficace parce que la clientèle se dessert beaucoup dans les organismes communautaires pour aller chercher des services et nous, on va vers eux, ils sont vraiment pour nous des collaborateurs de rêve.
C'est vraiment valorisant de voir toute la diversité de la pratique de la profession infirmière. J'ai passé un vraiment beau voyage dans tous ces secteurs-là.
T'as raison, Sophie. Puis en plus, ben, il y a tellement d'autres milieux à découvrir.
D'ailleurs, c'est une demande de nos auditeurs et auditrices de pouvoir connaître d'autres milieux. Fait que je crois que ça serait super pertinent qu'on aille un autre épisode, peut-être en 2025, justement, au sein de notre balado Savoir et stéthoscope sur la diversité de la pratique infirmière.
Merci vraiment, Nelly, d'avoir été avec nous.
Hey, ça m'a fait plaisir. Merci pour l'invitation.
Soins sécuritaires,
réontologie,
L3S,
acte réservé.
Ai-je le droit?
Ai-je le droit, comme infirmière, détenant un droit de prescrire, de procéder à la prescription de l'implant contraceptif hormonal? La réponse est oui. En 2022, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, en collaboration avec le Collège des médecins du Québec, ont émis un avis conjoint concernant cet implant contraceptif hormonal sous-cutané. Les infirmières étaient désormais autorisées à effectuer l'insertion et le retrait de l'implant selon une ordonnance individuelle. Ensuite, au printemps 2024, le protocole de contraception du Québec de l'Institut national de santé publique du Québec a été mis à jour en incluant l'implant contraceptif hormonal au chapitre 5. En conséquent, les professionnels habilités à prescrire dans le domaine de la santé publique, selon le règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par une infirmière et un infirmier, et selon la règle de soins infirmiers sur la prescription infirmière du CIUS de l'Estrichu, peuvent aussi désormais prescrire cet implant. Il est toutefois primordial que l'infirmière habilitée à exercer cette activité respecte les conditions et modalités prévues à la fois au sein de la règle de soins infirmiers, de même qu'au sein de la nouvelle règle de soins sur l'insertion et le retrait de l'implant contraceptif hormonal sous-cutané, qui sera aussi disponible sous peu au CIUSSS de l'Estrichu. Demeurez à l'affût.
Équité, diversité, inclusion. La Minute EDI avec Franck Boulasladj.
Les biais cognitifs. Les biais cognitifs sont des raccourcis mentaux que notre cerveau utilise pour simplifier le traitement de l'information. Ils peuvent influencer nos décisions et jugements de manière souvent inconsciente. Voici quelques exemples de biais cognitifs courants. Le biais de confirmation, le biais de disponibilité, l'effet de halo, les stéréotypes et préjugés, et bien d'autres. Ces biais cognitifs peuvent affecter nos décisions au travail, dans la vie personnelle et même en société. Prendre conscience de ces biais et adopter des stratégies pour les atténuer, comme la pensée critique et la diversité de perspectives, peut améliorer notre objectivité. Par exemple, pour l'effet de halo, si quelqu'un est perçu comme physiquement attractif, on peut supposer qu'il est aussi intelligent, compétent ou sympathique, même sans preuve concrète. En résumé, comprendre et reconnaître les biais cognitifs est crucial pour des décisions plus justes et éclairées. Cela implique d'être davantage vigilant et critique envers nos propres jugements pour mieux naviguer en société. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter la section Équité, diversité et inclusion dans l'intranet du CIUSSS de l'Estrichu.
C'est ce qui met fin à notre voyage dans le balado aujourd'hui. Un merci tout spécial à toutes les infirmières qui ont prêté leur voix pour nous parler de leur milieu, de leur pratique professionnelle, puis qui nous permettent d'en savoir un petit peu plus sur tous ces secteurs-là qui sont atypiques, méconnus, pour nous donner le goût aussi là, de découvrir tout ce que la profession infirmière nous offre. Donc, un merci énormément également à Nelly Filion, qui est venue nous parler, elle, de son parcours professionnelle, puis de toute la diversité qu'elle a eue dans sa pratique.
Oui, merci Nelly. Et maintenant, on le sait que faire preuve d'empathie dans notre pratique au quotidien, c'est un peu comme l'essence de la profession infirmière, là. Mais est-ce que ça se peut que parfois, on va ressentir de la fatigue là, à absorber les difficultés, les émotions, les états d'âme des autres? Donc, empathie et fatigue de compassion vont être les sujets du prochain épisode.
Voici ce qui conclut ce balado Savoir et Stéthoscope. À la prochaine!
À la prochaine!
Le balado de la Direction des soins infirmiers du CIUSSS de l'Estrichu, Savoir et Stéthoscope, est produit et réalisé entièrement par l'équipe de la DSI. Ce balado a été enregistré et monté dans les studios de CEFAC 88.3 à l'Université de Sherbrooke. Merci à eux. À la prochaine pour plus de Savoir et Stéthoscope.